Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission d'information et de débat. Aujourd'hui, nous avons décidé de débattre sur la question de la situation en Iran après une élection présidentielle qui a vu le candidat du camp conservateur Ebrahim Raisi remporter l'élection dès le premier tour avec 62% des suffrages exprimés, mais une très forte abstention, également beaucoup de votes blancs et surtout beaucoup de questions autour de la situation dans ce grand pays du Moyen-Orient. Et pour en débattre avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Tratar Abou Diab. Bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Je rappelle, vous êtes donc politologue, consultant en géopolitique. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels enseignements peut-on tirer de ce scrutin présidentiel qui arrive à un moment particulier, puisque l'Iran aujourd'hui, connaît une forme de durcissement du régime avec moins de liberté d'expression, plus de pression sur l'opposition et un régime qui semble finalement se normaliser avec des conservateurs qui petit à petit reprennent un peu tous les leviers du pouvoir.
Exactement, nous sommes à un tournant en Iran avec ces 13e élections depuis la création de la République islamique de l'Iran en 1979. Mais cette fois, ça a été un scrutin organisé. Souvent, on fait une sorte d'une gestion par le haut de ces scrutins à travers les conseils des experts qui choisit les candidats. Cette fois, il y avait la liquidation de presque 50 candidats pour simplement retenir 7 candidats. Et donc, on a choisi le candidat le mieux placé. On a laissé toute la place à Ebrahim Raisi comme président, ancien président maintenant de l'autorité judiciaire et comme quelqu'un du noyau dur du pouvoir. C'est un ayatollah, il a un titre religieux, il est très proche de Khamenei, les guides suprêmes. Il est aussi très proche de service de renseignement de Pasdaran, les forces prétoriennes de l'Iran, les gardiens de la révolution. Et donc, tous les ingrédients sont réunis pour trouver l'homme fort de la République et aussi les successeurs des guides suprêmes le moment venu.
Alors, c'est un peu ce qui se dit au niveau des commentateurs, c'est qu'en réalité, Ali Khamenei, le guide suprême, hein, puisqu'on rappelle qu'en Iran, il y a une forme de dualité du pouvoir avec une hiérarchie, un clergé, à la tête duquel il y a un responsable suprême qui est Ali Khamenei et un pouvoir politique avec un président élu. Mais en réalité, c'est vrai que cette dualité, elle est quand même souvent à l'avantage du guide suprême. Et là, ce qui se dit effectivement, c'est que Ebrahim Raisi a été choisi pour prendre la relève du guide suprême dans un second temps, puisque effectivement, ça fait maintenant plusieurs décennies que Ali Khamenei et le guide suprême du régime iranien.
Cette fois, on a une clarté. Et pour les opposants, les masques tombent. C'est-à-dire, cette dualité qui n'existe pas pour eux en réalité, elle est cette fois supprimée. Car en fin de compte, on a les guides suprêmes, on a le président de la République, on a aussi un parlement très conservateur d'un seul côté qui a été élu en 2019. Et donc, il y a une concentration de pouvoir. Le pouvoir se résume ou se réduit à sa plus petite expression religieuse. Et ce qui compte, c'est la légitimité religieuse du guide et non plus la légitimité populaire. Donc, c'est un tournant. Pourquoi ? Car on attendait quand même, à un moment donné, après 40 ans, un passage de la révolution vers l'État. Ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est l'étiolement de l'État en faveur de la poursuite de la révolution.
Et donc, est-ce qu'on assiste effectivement à une reprise en main d'un régime qui, à un moment donné, a donné le sentiment de pratiquer une forme d'ouverture vers les réformateurs, vers les modérés, et finalement cette parenthèse se referme et on semble assister effectivement à un durcissement du régime. On en parlera plus tard, y compris sur les droits humains, sur le rapport à la jeunesse aussi, et le sentiment finalement que l'Iran, sous le coup aussi peut-être d'un contexte international qui a changé, se referme un petit peu, se replie un petit peu sur les fondamentaux de la révolution iranienne.
Exactement, la parenthèse se referme. Lorsque la révolution islamique s'est éclatée en 1979, elle a suscité beaucoup d'espoir chez la jeunesse iranienne et chez le peuple iranien pour un changement réel, mais le religieux, les adeptes de Wali al-Faqih, c'est-à-dire qui croient à ce guide suprême qui a le pouvoir politique, judiciaire et religieux et militaire en même temps, a l'a emporté face aux autres forces de la société. Puis, il y a certains en Occident et ailleurs qui ont fait le pari sur une démocratie islamique à l'iranienne où on a été attiré par certaines formes de... car il y avait vraiment des gens brillants comme l'ancien président Mohammad Khatami qui parlait ouvertement d'un dialogue de civilisation. Tout ça n'a pas tenu. Khatami même, il a été privé de ses droits, il n'a pas le droit à la parole. Les gens de la révolution verte de 2009 sont toujours en résidence surveillée. Monsieur l'ancien premier ministre iranien, Hossein Mir Moussaoui, ainsi que Mehdi Karroubi. Et donc, même le duo Rouhani Zarif maintenant s'efface définitivement. Les modérés et les réformateurs, une section de pouvoir n'a pas droit au chapitre. Tout se résume par les conservateurs religieux, ultra-religieux et durs. Donc, et il y a une militarisation avec les Pasdarans, aussi un contrôle de la vie économique par ces mêmes groupes et les proches du guide. Et pour cela, il y a une déception et donc de plus en plus un redressement avec aussi la continuité des aventures militaires de l'Iran dans la région.
Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe parce que le régime semble aujourd'hui revenir à une forme de contrôle social et politique très fort, au moment même où dans la population iranienne, et en particulier dans la jeunesse iranienne, il y a une contestation des fondamentaux du régime. On pense notamment à ce mouvement des femmes qui se révoltent contre le port du voile obligatoire. On pense aussi à tous ces entrepreneurs qui avaient bénéficié de la levée des sanctions et qui avaient commencé, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, à investir à une forme de richesse, de force de la jeunesse iranienne qui finalement est un petit peu aujourd'hui frappée par ce durcissement. Et est-ce que finalement, dans la durée, l'Iran peut se refermer alors même qu'une grande partie de sa population a envie de plus de liberté, de liberté économique, mais aussi de liberté individuelle?
Oui, c'est un schisme réel, c'est une fracture. Et si vous voulez, la population d'Iran a plus de 60% moins de 30 ans. Donc, la jeunesse n'est pas simplement sous-représentée, la jeunesse iranienne n'est pas représentée. Si on observe l'âge des parlementaires, l'âge des ministres, l'âge des grands fonctionnaires, là, donc, le pays est gouverné par une certaine génération, le pays est gouverné par des conservateurs, Et donc, il y a parfois, on laisse la jeunesse respirer, mais dans la limite où ça ne peut pas gêner le contrôle politique du pouvoir. Et en même temps, on essaye de donner le petite miette de l'ouverture économique à certains entrepreneurs, mais comme les pastarons maintenant, c'est comme l'armée chinoise, comme d'autres outils de pouvoir dans le monde, ils travaillent d'une façon à la façon de Kim Jong-un en Corée du Nord. Donc c'est un pouvoir qui cherche avant tout à se maintenir. Et le peuple iranien, qui a une vivacité extraordinaire, ne trouve pas sa place pour s'exprimer.
Alors, donc, effectivement, on a une grande partie de la population en Iran qui ne se sent pas représentée ou qui ne se sent pas, respectée dans ses aspirations par le régime. Du coup, est-ce que ça pourrait aussi amener à supprimer finalement cet espace démocratique que représente l'élection présidentielle, en sachant qu'effectivement, dans la dernière période, le sentiment qu'ont eu beaucoup d'Iraniens, c'est que ces élections n'étaient plus, organisées de manière libre et juste, et que tout était fait pour aller vers un candidat officiel et qui devait être élu, y compris peut-être par des fraudes.
Dans plusieurs pays du monde, les élections sont montées, sont tranchées d'avance. Et en Iran, cette fois, c'est vraiment la désignation, car apparemment, avant, il y avait dans les apparences une concurrence démocratique. Cette fois, même une démocratie sous contrôle n'a pas été admise et il y avait une désignation, c'est pour les nécessités. Le pouvoir a besoin de la confiance en lui-même, il a besoin de préparer la succession de guides, mais on va voir si cette phase donne au pouvoir plus de force pour contrôler le pays ou au contraire. Il ne faut pas oublier que depuis ce qu'on appelait la révolution de l'essence en 2019, il y avait beaucoup de problèmes en Iran. Bien sûr, le coronavirus plus les phénomènes des sanctions américaines ont créé une sorte d'un répit pour le pouvoir. Mais là aussi, si par exemple les démarches vers un retour au normal du point de vue levé des sanctions ne se réalisent pas, on pourrait attendre à des réactions populaires, on pourrait attendre à une sorte d'une poursuite de cette contestation qui a été étouffée à un moment donné. Il est clair que les négociations concernant le nucléaire iranien ne seraient pas affectés par l'élection d'Ibrahim Raisi pour une raison toute simple. La décision en matière de politique étrangère en Iran appartient au guide suprême, appartient à un comité des affaires étrangères qui siège auprès du guide suprême. Et n'importe qui le président, c'est le président exécutif, mais c'est pas lui celui qui décide. Donc, à cause de tout cela, oui, l'Iran a besoin de cet accord, surtout pour la levée des sanctions, pour retrouver ou tenter une relance économique. La population iranienne attend avant tout ces résultats et la communauté internationale pense que c'est le seul moyen de ne pas permettre à l'Iran d'avoir un jour la bombe atomique. Donc ces compromis recherchés pourraient aboutir si les Américains veulent que ce soit avant la fin de la présidence de Rouhani et avant la prise de pouvoir par Raisi, c'est-à-dire avant fin août. Mais concernant la date, ça dépend beaucoup maintenant des négociations entre Iraniens et 5 plus 1 à Vienne on avait jusqu'à maintenant 6 sections de négociations et on aura la 7e, je pense, début juillet prochain.
Eh bien, merci, Rara Abou Diab. Je rappelle que vous êtes politologue, consultant en géopolitique. On a déjà eu l'occasion de vous entendre parce que vous êtes un spécialiste des questions liées au Proche et au Moyen-Orient. Merci d'avoir répondu à nos questions dans la première partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Et bien, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée à l'analyse de la situation en Iran suite à l'élection présidentielle avec un nouveau président qui prendra ses fonctions en août 2021, donc Ebrahim Raisi, issu, on va dire, de la mouvance conservatrice, hein, proche du guide Ali Khamenei. Et pour en parler avec nous dans la deuxième partie d'invitation, j'ai invité Saon Saber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et d'origine iranienne. Et donc forcément, vous avez un regard particulier sur le pays de votre origine, de votre famille. Comment est-ce que vous analysez la situation aujourd'hui, et en particulier l'élection avec 62% des voix exprimées et aussi une abstention très forte, hein, plus de 51%, d'un nouveau président qui, ma foi, incarne une forme de reprise en main du camp conservateur par rapport à ce qui avait pu être notamment à l'époque du président Khatami, une forme d'ouverture, d'assouplissement du régime. Là, on a l'impression qu'il y a une forme de reprise en main.
En réalité, il faut bien interpréter cette élection qui ne doit pas être perçue à l'aune de ses résultats, et je dirais même à l'aune de l'élection de M. Raisi. Vous évoquiez une reprise en main des conservateurs. En réalité, le régime n'a jamais cessé d'être un régime profondément conservateur, puisque comme vous le savez, les élections en Iran sont des élections qui visent à accorder des fonctions à des personnes qui n'ont d'autres pouvoirs que ceux que le guide suprême de la République islamique, n'est pas élu en l'occurrence, veut bien leur accorder. Et on l'a vu avec le gouvernement de M. Rouhani, et on l'a vu même auparavant avec le gouvernement de M. Khatami, qui était effectivement présenté comme un réformateur. Alors, on parle d'une reprise en main. Encore une fois, moi, je conteste, hein, cette interprétation, puisque je tiens à rappeler qu'il y a eu, en 1999, en 2003, en 2009, en 2019, il y a eu à chaque fois des printemps politiques, des printemps iraniens, avec des grands mouvements de manifestations, de protestations, et à chaque fois plusieurs dizaines de morts. Et on parle même, pour la répression de 2019, on parle quand même de près de 1500 morts en moins d'une semaine. Et à ce moment-là, il faut le rappeler, le gouvernement était un gouvernement présenté comme réformateur, puisque c'était le gouvernement de M. Rouhani. Donc cette question de la reprise en main par les conservateurs, je pense que il faut admettre aujourd'hui une chose, c'est que le régime, en réalité, depuis 40 ans, a tenté de faire croire qu'une alternative politique à l'intérieur du régime était possible, qu'une évolution politique et institutionnelle était possible. Je me souviens de ce discours qu'avait prononcé le président Khatami en 2002, je pense, au moment de sa réélection. Il avait promis de, je cite, poursuivre les réformes vers un état de droit. Or, finalement, on a bien vu que la République islamique ne s'est jamais orientée vers un régime un état de droit. Donc, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui de ces élections, c'est d'abord que le régime ne se cache plus d'être ce qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il joue en réalité sa survie. On sait que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, est malade. Il est affecté par un cancer et il est aussi d'un âge assez avancé. C'est-à-dire que la question de sa succession, déjà depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, est l'objet de, d'intenses débats au sein même du sérail du régime. Un temps, on a pensé que son héritier pourrait être son propre fils. Le nom de Monsieur Raïssi a été évoqué. En réalité, c'est cette succession qui est en train de se préparer et qui vient, je pense, préparer un risque de trouble, un risque de déstabilisation du régime en cas de décès de l'ayatollah Khamenei. Donc, finalement, ce régime aujourd'hui, par la façon qu'il a d'avoir choisi les candidats à cette élection présidentielle, a montré qu'il n'était en rien un régime qui pouvait progresser. En réalité, on est dans un régime assez élastique, hein, qui accorde un peu de latitude, qui en refuse, en fonction de ses impératifs immédiats, en fonction de ses contingences immédiates. Voilà, cette élection aujourd'hui, elle nous dit aussi qu'il n'y a plus d'espoir à avoir sur les grandes questions internationales. Je rappelle encore une fois que les premières discussions qui ont été engagées autour du programme nucléaire iranien datent de 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et l'Iran est au seuil nucléaire, c'est-à-dire que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe nucléaire, alors même qu'il fut un temps où il était presque tabou de dire que le programme nucléaire iranien avait des idées militaires. Je me souviens de cet incident diplomatique qui avait eu lieu lorsque Philippe Doustoblasi était ministre des Affaires étrangères et qu'il avait déclaré que la crainte des Occidentaux et de la communauté internationale était précisément que l'Iran cherche à acquérir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Ces questions-là ne sont même plus taboues. La nature réelle du régime n'est plus taboue. Et ce qu'il y a de plus frappant encore, c'est que et on l'a vu lors des dernières émeutes de 2019, c'est que la population, la catégorie sociale, les milieux populaires, les milieux modestes qui, à l'origine de la révolution, étaient censés représenter la base sociale du régime, eh bien, ces catégories populaires-là, aujourd'hui, se sont soulevées contre le régime. Et ce sont celles qui ont payé, d'ailleurs, un tribut extrêmement important en 2019. Donc on a une généralisation du mécontentement qui est liée à l'absence de liberté politique, évidemment, et puis qui se fonde aussi sur la corruption. La corruption n'est plus aujourd'hui un sujet tabou en Iran. Tout le monde dénonce la corruption. Au sein même du régime, il y a des responsables politiques qui dénoncent la corruption, parce qu'ils savent que cela met en danger le régime. Il y a, je dirais aussi, Internet qui a fait son travail, puisqu'aujourd'hui on voit que un grand nombre de familles de dignitaires du régime vivent à l'étranger, vivent dans les capitales européennes, vivent aux États-Unis, grand Satan, vous voyez, comme ils l'appellent, dans des conditions de confort absolument scandaleuses. Donc qui croit aujourd'hui au régime? Personne. Au fond, je pense même les dignitaires du régime sont en réalité très inquiets de son avenir, non pas parce qu'ils poursuivent une quelconque idéologie, mais parce qu'aujourd'hui, c'est, je dirais même, leur propre avenir qui est en danger. Et de ce fait, je pense que ces élections viennent marquer un tournant très important, mais qui, aujourd'hui, attend d'être compris par le reste de la communauté internationale.
Alors, on a effectivement un pays de 83 millions d'habitants dans lequel 60% de la population a moins de 30 ans. Et on a l'impression que ces moins de 30 ans, ce sont ceux qui se sont le plus abstenus lors de cette élection pour, d'une certaine manière, marquer leur défiance par rapport à un régime qu'ils ne cautionnent plus ou qu'ils ne veulent plus cautionner. Et en même temps, c'est aussi de cette jeunesse que vient la contestation la plus forte, que ce soit, par exemple, chez les jeunes femmes, le refus du port du voile obligatoire, ou chez d'autres, la volonté de voir une liberté d'entreprendre plus importante. On pense à tous ces jeunes entrepreneurs qui ont investi pour développer l'activité économique du pays au moment où il y a eu un amoindrissement des sanctions et qui aujourd'hui se plaignent parce qu'à nouveau les sanctions sont là et ils se sentent prisonniers de dans leur pays. Et donc est-ce que vous pensez que c'est notamment par la jeunesse que ce régime peut éventuellement être amené à céder la place à un autre?
Alors, à titre personnel, j'ai toujours pensé que ce serait une affaire de génération. Il y a une différence entre la génération qui a fait la révolution et la génération qui lui a succédé. J'évoquais tout à l'heure les familles, et je pense en particulier aux enfants des dignitaires du régime qui ne vivent pas en Iran, qui vivent à l'étranger, eux-mêmes n'aspirent pas à, je dirais, une vie sur, sur la mode, sur, sur le mode islamique tel qu'il a été imaginé par l'ayatollah Khomeini au moment de la Révolution. Évidemment, la jeunesse est, est celle qui a le plus manifesté sa désaffection pour ces élections, mais en même temps, c'est normal, puisque c'est cette jeunesse qui aspire à quitter le pays, c'est cette jeunesse qui veut se bâtir un avenir et qui voit le pays toujours plus isolé et toujours plus menacé, non seulement menacé par les échéances qui approchent, par la situation politique internationale qui se dégrade et qui ne va pas dans, dans l'intérêt de l'Iran, mais aussi parce que la gestion interne de la situation politique, économique et sociale de l'Iran a été complètement négligée. On évoque souvent les sanctions unilatérales américaines décrétées par l'ancien président américain Donald Trump. Je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens comprennent aussi qu'il y a, eu un prétexte employé par les militaires du régime pour finalement faire peser, faire peser leur propre responsabilité sur l'administration américaine. En réalité, si Donald Trump s'est retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire, les Iraniens pouvaient y rester, puisque les Européens y étaient, et la communauté internationale était également partie prenante et garante de la bonne application de cet accord. Et finalement, dans une logique qui est celle du régime iranien et qui consiste à toujours essayer de dresser contre lui des ennemis, de trouver des ennemis, les dirigeants de la République islamique ont choisi de se retirer de cet accord pour créer une situation encore plus compliquée. Et les Iraniens comprennent aujourd'hui qu'il y avait d'autres solutions. Il y avait d'autres solutions pour éviter d'en arriver à une telle situation. Donc, oui, la jeunesse aujourd'hui, elle comprend très bien ce qui se passe. D'ailleurs, ça fait un long moment qu'elle comprend, puisque à chaque fois, les grands mouvements de protestation ont été animés par la jeunesse. Les premiers mouvements qui datent de 99 ont eu lieu à l'université de Téhéran. Cette jeunesse avait 20 ou 25 ans. 20 ans plus tard, elle a 40 ou 45 ans. Donc cette jeunesse est encore, je dirais, à l'œuvre dans tous les mouvements de contestation et dans le développement des idées libérales. Libérales au sens évidemment politique. Des idées démocratiques pour des idées portées sur la question des droits de l'homme. Mais maintenant, toute la question est de savoir avec qui on discute. Est-ce qu'on donne une place à cette jeunesse dans l'avenir que l'on conçoit pour l'Iran et dans l'avenir que l'on conçoit pour le rôle que l'Iran doit avoir dans la région et dans le concert des nations, ou alors est-ce qu'on continue à tourner le dos à cette jeunesse en pensant qu'elle ne comptera pas à l'avenir? Et ça, je pense que c'est la grande erreur que commettent les puissances occidentales et toutes celles qui négocient avec le régime, notamment au sujet du nucléaire, c'est de ne pas prendre la mesure de ce que l'Iran, de ce que la population iranienne pourrait devenir d'ici 10 à 15 ans et en quoi elle pourrait influencer aussi en quoi elle devrait influencer les décisions qui sont prises aujourd'hui.
Alors justement, les puissances occidentales, elles continuent à travailler pour relancer le processus de négociation d'un accord sur le nucléaire iranien. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, Ebrahim Raisi lui-même a laissé entendre que, évidemment, tout en défendant les intérêts et la souveraineté de son pays, il était prêt à poursuivre ces négociations, peut-être parce que les sanctions économiques pèsent lourd et que le régime espère s'en sortir, en soulageant un petit peu l'économie sans rien lâcher sur les libertés individuelles et les libertés publiques.
Alors, il faut voir quelle sera la décision qui sera prise et il faudra voir quels seront les aboutissements de ces éventuelles négociations. Parce que vous savez, encore une fois, les négociations ont commencé en 2003. Elles avaient pour but de limiter l'enrichissement de l'uranium par le régime et surtout de l'encadrer à des fins strictement civiles. Et aujourd'hui, l'Iran est en face d'abord de l'arme nucléaire. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce que ces négociations visent à gagner du temps et de poursuivre le programme nucléaire et d'obtenir la bombe? Est-ce que c'est une façon, je dirais, d'occuper les Européens et les Américains, ou est-ce qu'il y a derrière cela une réelle volonté de pacifier cette question, de pacifier la région? Parce que, si vous voulez, les dernières évolutions qui ont eu lieu du côté de la communauté internationale, c'est non plus de négocier uniquement et la question de l'enrichissement de l'uranium. La question qui se pose aujourd'hui, c'était également d'inclure dans ces négociations le programme balistique des Iraniens, puisque aujourd'hui l'Iran a les moyens d'atteindre avec l'un de ses missiles le sud de l'Europe, et c'est également d'inclure dans ces négociations le rôle de l'Iran dans tout le Moyen-Orient, puisqu'on voit aujourd'hui, on est rendu compte particulièrement sous la présidence de M. Rouhani, que l'influence de l'Iran est très grande au Yémen, dans les territoires palestiniens, au Liban, en Afghanistan et en Irak, et que ces dernières années, l'Iran a plus contribué à créer du trouble au Moyen-Orient plutôt qu'à pacifier la région. Donc, la question des négociations, les négociations seront toujours en cours, et je pense que les militaires du régime islamique n'auront jamais à cœur de fermer la porte des négociations, mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'ils ont un agenda politique, et il faut inclure cet agenda politique dans la compréhension de ces négociations. Quel en sera le résultat? Personne ne peut dire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'accord de 2015, malheureusement, était un accord, et je reprends là d'ailleurs les mots de M. Zarif, hein, le ministre des Affaires étrangères iranien qui avait négocié cet accord, c'était un accord à minima, et d'ailleurs un accord tellement à minima que trois ou quatre jours après sa conclusion, le régime, pour marquer sa défiance et pour dire que cet accord n'était pas un accord qui affecterait en réalité sa souveraineté dans cette question nucléaire, le régime a procédé à des essais balistiques. Donc, vous voyez, on est toujours dans un jeu du chaud et du froid avec le régime des Ayatollahs. Encore une fois, pourquoi pas avoir des négociations, mais quel sera l'objectif et surtout dans quel timing? C'est ça la vraie question.
Alors, un dernier mot pour finir sur finalement la capacité de l'opposition à rebondir. Alors, quand on parle de l'opposition, hein, on sait que c'est un ensemble hétéroclite de personnalités, de mouvements. On sait qu'on n'est pas dans un régime pluraliste à l'occidental, donc c'est pas tout à fait aussi simple de s'opposer au régime des mollahs que ça peut l'être aujourd'hui dans une démocratie à l'occidental. Mais est-ce que vous espérez ou est-ce que vous imaginez qu'il y ait une capacité à construire un débouché politique sur cette majorité, sur la majorité de la jeunesse et peut-être même une majorité d'Iraniennes et Iraniens qui souhaiteraient effectivement un changement mais et qui attendent effectivement peut-être des personnalités ou des mouvements pour l'incarner?
C'est une question très, très complexe que vous posez, parce que les Iraniens se la posent déjà depuis très longtemps et ils n'ont pas vraiment de réponse à ça. Ils ont quelques débuts de réponse. D'abord, le seul changement qui peut se produire ne peut venir que de l'intérieur de l'Iran. Il y a une forte diaspora iranienne à l'étranger qui est assez hétérogène en réalité, puisqu'il y a des personnes issues de milieux sociaux différents, comme il y a des personnes issues de vagues d'émigration différentes. Donc il n'y a pas une diaspora homogène qui pourrait constituer une force alternative. En revanche, c'est une diaspora qui peut porter des idées, qui peut transmettre les idées, transmettre l'information qui lui vient de l'intérieur du pays. Mais le changement, lui, ne viendra que de l'intérieur, ça c'est sûr et certain. La question, c'est de savoir quelle est la part que la communauté internationale veut prendre. En 2009, lorsque les Iraniens se sont soulevés contre la réélection de M. Ahmadinejad, fraude électorale, mais encore une fois, dans une élection qui se fait dans un cadre assez particulier, le président américain à l'époque, Barack Obama, qui avait promis à son électorat un accord sur le nucléaire et qui avait promis de tendre la main au monde musulman, avait choisi de renoncer à la question des droits de l'homme en Iran. Et là où en France et en Europe, nous avions Nicolas Sarkozy qui était très offensif sur ce sujet-là, Angela Merkel qui était très offensive également, malheureusement, l'Amérique a été un contrepoids...
Un frein.
Un frein, effectivement, un frein au soutien des pays européens. Donc la question, elle est là aussi. Quel est le rôle que veut jouer la communauté internationale dans un éventuel accompagnement d'un changement de régime en Iran. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une démocratie libérale, ce n'est pas une démocratie occidentale. Le régime iranien, quand il se sent en danger, il réprime, et il réprime dans le sang. Il l'a fait en Iran, mais je vous rappelle aussi qu'il l'a fait ailleurs dans le monde, puisque en Syrie, c'est aussi que nombre de massacres...
En Syrie, le régime iranien a soutenu fortement Bachar el-Assad.
Absolument, et il a animé, il a coordonné des massacres de populations civiles. Donc on n'est pas face à des personnes pour qui la vie a une vraie valeur. Donc le changement doit venir à l'intérieur, les aspirations doivent s'exprimer, mais il faut aussi que la communauté internationale, et en particulier, moi je le dis, alors peut-être pas seulement parce que je suis français, mais parce que la France a une histoire importante hein, dans le rayonnement culturel iranien, la France a un rôle à jouer ici. Les intellectuels français, les responsables politiques de gauche et de droite ont un rôle très important à jouer. La France est un pays qui n'a jamais été en guerre contre l'Iran, c'est son histoire. Je pense que ce soutien doit venir, que la France a un rôle primordial à jouer. C'est comme ça que les choses pourront changer.
Merci beaucoup, Saad Saber. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes d'origine iranienne et donc on voit que vous avez une analyse et une connaissance fine de ce qui se passe dans le pays d'origine, sans doute de vos parents ou de vos grands-parents. Et donc on vous remercie pour ce témoignage. C'était une émission qui était consacrée effectivement au lendemain de l'élection iranienne. C'est l'occasion de parler de ce grand pays du Moyen-Orient qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé dans nos émissions. Mais voilà, c'était intéressant de vous entendre ainsi que nos invités précédents, Rata Abou Diab. Et on vous remercie d'avoir accepté de participer à l'émission.
Merci beaucoup à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.